VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 18h à Bujumbura, 16h à Lomé au Togo. Bonsoir, bienvenue. Au Burundi, l'annonce des résultats de la présidentielle de mardi est prévue vendredi. Et cela à 13h GMT, soit 15h heure de Bujumbura. Eric Manirakiza.
C'est Prosper Naogwamiye, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui l'a annoncé à la VOA aujourd'hui. Aucun chiffre officiel n'a jusqu'ici été publié, mais les tendances communiquées par la CENI à la VOA placent en tête le président Pierre Nkurunziza, suivi d'Agathon Rwasa. Le président Pierre Nkurunziza, qui briguait un troisième mandat controversé, est assuré d'être élu au premier tour. L'opposition, la société civile et l'influente église catholique estiment qu'un troisième mandat de M. Nkurunziza viole la constitution et l'accord d'Arusha qui a mis fin à la longue et sanglante guerre civile au Burundi. Par ailleurs, l'Union africaine a annoncé ce mercredi le déploiement de militaires et d'observateurs des droits de l'homme au Burundi. Ce déploiement vise à prévenir une escalade de la violence au Burundi ainsi qu'à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la grave crise que connaît le pays, précise un communiqué de l'Union africaine.
Soudan du Sud, l'ONG Human Rights Watch publie un rapport accablant dénonçant de graves exactions de l'armée commises sur des civils entre avril et juin 2015. Il accuse l'armée sud-soudanaise d'avoir écrasé des civils avec leurs chars et brûlé vifs des villageois. Début juillet, le gouvernement avait annoncé déjà enquêter sur des accusations de l'ONU selon lesquelles ses troupes avaient violé et brûlé vives des jeunes filles. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le document est intitulé « Ils ont tout brûlé ». Il compile 174 témoignages de victimes recueillis dans l'état de l'unité dans le nord du pays. Des récits d'attaques délibérées contre des civils qui constituent des crimes de guerre selon Human Rights Watch. L'ONG accuse les troupes sud-soudanaises, principalement des Dinka, d'avoir exécuté sauvagement des civils ciblés selon des critères ethniques, les victimes étant majoritairement des Nuer. Les auteurs du rapport font également état de 63 cas de viol, mais estiment qu'il ne s'agirait que d'une partie du nombre total. Le viol, souvent commis en public et qui serait devenu une arme banale selon des témoignages. Les forces rebelles sont elles aussi accusées d'avoir commis des atrocités et, comme le gouvernement, d'avoir recruté des enfants soldats. L'armée n'a pas souhaité répondre aux accusations de l'Organisation de défense des droits de l'homme.
Et toujours au Soudan du Sud, les rebelles ont annoncé aujourd'hui s'être séparés d'un de ses importants commandants militaires, l'ex-vice-président du pays, Riek Machar, chef de la rébellion, a limogé l'influent seigneur de guerre Peter Gade, qui fait l'objet de sanctions des Nations Unies. Peter Gade est accusé par l'ONU d'avoir abattu un hélicoptère en 2014, c'était au mois d'août, causant la mort de trois Russes, ce qu'il a toujours nié. Il a été remplacé par le général James Kwang Chuol, un autre militaire également sur la liste noire des Nations Unies.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est engagé à récupérer les sommes d'argent ahurissantes issues de vols et de détournements de pétrole à grande échelle dans son pays. Il a promis de traduire les responsables de cette transaction devant la justice, a déclaré aujourd'hui son porte-parole. Selon M. Buhari, qui se trouve actuellement à Washington pour la première fois depuis le début de son mandat le 29 mai, l'équivalent de 250 000 barils de pétrole brut est volé chaque jour au Nigeria, premier producteur d'or noir d'Afrique, soit plus de 10% de la production nationale. Les profits de cette escroquerie sont placés sur des comptes bancaires individuel. Au Togo, les prix des hydrocarbures ont été revus à la hausse au grand mécontentement des consommateurs. Reportage à Lomé, Kai Lawson.
La décision tant redoutée par le consommateur est tombée. Ce mardi 21 juillet, le gouvernement togolais a procédé à la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Une augmentation qui se trouve dans un intervalle de 8 à 24 francs CFA. Pour des Togolais, cette hausse s'est faite de façon anarchique et dénote du manque de considération pour le peuple.
Comment on nous conduit, c'est pas bon. Si c'est qu'on va augmenter le prix à la pompe, on doit nous abattre bien avant. Ben, ils sont là pour faire leur jeu comme ça, sans savoir, on a augmenté le prix. C'est pas bon pour moi.
L'État ne fait qu'un effort envers la population. Nous souffrons trop. Comment on peut augmenter encore comme ça, sans avertir, sans rien dire? Il faudrait que l'État revoie ça et ramène même ça à 500 francs.
Cette augmentation ne devait pas être dans la mesure où les Togolais souffrent. Le dernier pays est difficile. Ce n'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à avoir pitié. Quand les choses se passent comme ça, c'est tout comme il n'y a personne pour défendre les Togolais.
La défense des intérêts des Togolais, la Ligue des consommateurs du Togo dit en fait son cheval de bataille. Quelques heures après l'annonce de cette augmentation, la LCT est montée au créneau pour exiger le retour des prix antérieurs. Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo.
C'est une grande indignation, une manifestation de colère de notre part. On ne peut en aucun cas comprendre cette augmentation. Nous pensons que le gouvernement doit rapporter cette décision d'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe et de telle sorte que la misère puisse diminuer un tant soit peu. Mais nous dénonçons et au-delà de la dénonciation, nous allons utiliser des moyens légaux pour pouvoir amener le gouvernement à rapporter sa décision.
Les nouveaux prix du carburant sont fixés comme suit. Le super est à 592 francs CFA le litre. Le gasoil se vend à 638 francs. Un litre de mélange de thym est à 687 francs CFA et le pétrole lampin à 514 francs CFA. Soulignons que le prix du gaz domestique demeure inchangé. La bouteille de 6 kg reste à 3120 francs CFA et celle de 12,5 kg à 6500 francs CFA. Kailosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, plus de peur que de mal, au siège de la Société nationale d'électricité, un incendie s'est déclenché tôt ce matin, vite maîtrisé par les pompiers. Des investigations sont en cours par la police scientifique afin de déterminer les causes de l'incident. On écoute le témoignage de Haruna Diarra, il est le directeur de la communication de Sonabef.
C'est aux environs de 7h du matin, en arrivant, qu'on a constaté qu'il y a de la fumée qui sortait d'un bureau du premier étage. Et immédiatement, on a fait appel aux sapeurs-pompiers qui sont venus rapidement. La fumée obstruait pratiquement tous les couloirs. Donc les sapeurs-pompiers ont quand même pu déployer leur matériel plus tôt et ils sont arrivés au bout de l'incendie après pratiquement 2 heures de temps. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu 4 personnes qui étaient carrément au 4e étage. Et comme le feu a pris au niveau du 1er étage, on les a fait monter sur le toit du bâtiment et les sapeurs-pompiers ont pu déployer leur échelle et puis les faire descendre. Il y avait 3 femmes et un homme. Donc, ils sont descendus sans et sauf, sans problème. Principalement, 3 bureaux qui ont été complètement brûlés. C'est des dégâts matériels seulement. Il y a des imprimantes, des ordinateurs et puis quelques archives quand même qui sont parties en fumée.
Haruna Diarra, le directeur de la communication de Sonabef, joint à Ouagadougou par Bouda Rachid. À noter que les dégâts causés par le feu n'empêchent pas la fourniture de l'électricité, les centrales se trouvant en dehors du siège de la société de production d'électricité du Burkina Faso. Le Parlement tunisien a entamé 3 jours de débat pour adopter une nouvelle loi antiterroriste, un test attendu depuis des mois dans un contexte d'attaques sanglantes revendiquées par le groupe État islamique. Mais ce nouveau test est déjà critiqué par des ONG. Ce débat intervient dans un contexte de menaces grandissantes après les attaques en juin à Sousse qui a fait 38 morts chez les touristes et en mars au musée du Bardo, 22 morts dont 21 touristes revendiqués par le groupe État islamique. Ce test est appelé à remplacer une loi terroriste en vigueur depuis 2003.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Yémen, l'aéroport d'Aden a rouvert aujourd'hui avec l'atterrissage d'un avion militaire saoudien, le premier engin à s'y poser depuis près de 4 mois en raison de la guerre dans le pays, a annoncé le ministre des Transports. En Afghanistan, au moins 15 personnes ont été tuées ce mercredi dans un attentat suicide au nord afghan. L'attentat a eu lieu dans le district d'Almar, de la province de Faryab, près de la frontière avec le Turkménistan. Un kamikaze s'est fait exploser sur le marché principal du district, a indiqué à l'agence France-Presse Abdoul Sattah Barrez, le gouverneur de la région. Cet attentat survient alors que les talibans ont intensifié leurs attaques contre les forces afghanes et leurs alliés de l'OTAN à travers le pays ces derniers mois, après la fin de la mission de combat des troupes de l'OTAN dans le pays en décembre dernier. Un haut responsable d'Al-Qaïda tué par un drone américain, c'était le 8G près de la localité de Sarmada en Syrie. C'est ce qu'annonce le Pentagone en précisant que Mohsin Al-Fadli était le leader du groupe Khorasan, accusé de comploter contre les États-Unis et leurs alliés. Le département d'État américain avait offert une récompense de $7 millions pour toute information conduisant à sa mort ou à sa capture. Enfin, le secrétaire américain à la défense Ash Carter est en Arabie Saoudite, 3e étape de sa tournée au Proche-Orient pour informer les alliés des États-Unis sur les avantages de l'accord sur le nucléaire iranien. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.